en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En habit vert aujourd'hui s'intéresse au parcours hors du commun de Louis de Broglie. Alors, la famille de Broglie est connue pour jalonner l'histoire. Plusieurs d'entre eux, trois exactement, furent maréchaux de France. Et puis, deux d'entre eux, au XXe siècle, s'aventurèrent avec talent dans le domaine de la physique. Il s'agit de Maurice et de Louis de Broglie. Tous les deux sont frères. Et tous les deux également, chose extraordinaire, entreront à l'Académie française avec 10 ans d'écart entre 1934 et 1944. Et puis, encore chose plus improbable, c'est son frère. C'est Maurice de Broglie qui recevra son propre frère Louis de Broglie donc à l'Académie française. Alors décidément, la famille de Broglie n'a pas un destin commun puisqu'aujourd'hui, c'est Gabriel de Broglie, alors une autre branche de la famille, qui siège à la fois à l'Académie des sciences morales et politiques et à l'Académie française, qui est donc actuellement ici à l'Institut de France et qui vient de prendre les fonctions de chancelier de l'Institut le 1er janvier 2006. Mais ne nous éloignons pas de notre sujet. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire la connaissance de Louis de Broglie, le père de la mécanique ondulatoire. Alors c'est un thème peut-être un peu barbare, qui ne vous dit peut-être rien, mais justement, quelqu'un est là pour venir nous en parler, parler de ce parcours hors du commun, nous parler de la mécanique ondulatoire. Il s'agit de Georges Lochac. Georges Lochac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais non, c'est moi qui suis ravi de venir parler de mon maître.
Alors justement, voilà, mais c'était votre maître, vous étiez son plus proche collaborateur.
C'est ça, il avait d'autres très proches collaborateurs, comme Marie-Antoinette Tonnelat, comme Costa de Beauregard, comme Destouches et d'autres, mais c'est vrai que pendant toute la fin de sa vie, c'est moi qui étais son plus proche collaborateur.
Alors vous avez travaillé avec lui pendant plus de 30 ans,
plus de 30 ans,
une amitié également, hein, puisque je pense que pour travailler avec Louis de Broglie, il faut être également son ami.
Non, pas nécessairement, mais je dois vous dire simplement une chose anecdotique amusante, c'est que quand j'avais rendez-vous avec lui à l'Académie et que j'allais dans l'antichambre qui précédait son bureau, la secrétaire m'accueillait en me disant « Votre ami n'est pas encore arrivé ». Alors moi, je m'exclamais « Pensez-vous, c'est pas mon ami, c'est mon patron, etc. » Et quand il est mort, je me suis dit « Mais tout compte fait, c'était un ami ».
Alors, vous êtes également physicien, puisque vous avez travaillé avec, avec Louis de Broglie, ancien directeur de recherche au CNRS. Et puis, vous avez publié un ouvrage, justement, sur votre maître, Louis de Broglie, paru en 1992 aux éditions Flammarion. Alors, avec vous, donc, nous allons pouvoir aborder plusieurs facettes du personnage Louis de Broglie, ses origines familiales, son rôle dans la télégraphie sans fil, qui va lui valoir, justement, de travailler sur tout un domaine particulier la mécanique ondulatoire, et on reviendra très longuement dessus avec vous. Ces travaux qui seront donc couronnés d'un prix Nobel en 1929. Et puis nous aborderons également une autre partie qui est le fait qu'aujourd'hui Louis de Broglie est un peu oublié par ses pairs, par les autres scientifiques.
Oui.
Donc vous allez pouvoir nous raconter pourquoi. Voilà. Et alors, juste avant de commencer, si vous me le permettez, j'aimerais débuter par une citation que vous avez faite dans votre ouvrage Louis de Broglie. Donc c'est à un moment où il est donc à un dîner chez la mère de sa belle-sœur, pour être très précis. Et dans ce dîner, il y a une voyante qui va lui faire une révélation. C'est pour donner un avant-goût de notre émission. Et cette voyante lui dit « Vous allez devenir célèbre, mais difficile de vous dire pourquoi. Vous allez devenir célèbre pour vos travaux de mécanique. » Alors voilà, nous allons pouvoir partir avec ce premier indice d'une voyante. Alors je ne sais pas à quelle année ça se situe, mais c'est avant ses travaux.
Moi, je l'ai oublié. Je pourrais peut-être le retrouver chez moi, mais je sais qu'il était très jeune. Il était encore un adolescent quand c'est arrivé. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que, vous savez, la mécanique en tant que science, c'est une notion que la plupart des gens, même maintenant, ne connaissent pas. N'est-ce pas? La mécanique, c'est la mécanique automobile, c'est la mécanique des machines. N'est-ce pas? Ce n'est pas une branche de la science pour la plupart des gens. Il est, a fortiori à cette époque, complètement évident que pour cette voyante, le mot mécanique ne pouvait pas signifier une science.
Et pourtant, elle avait déjà...
Et d'où elle a sorti ce mot Mais c'est resté un mystère qui n'empêche à tellement impressionné Louis de Broglie qu'un beau jour, il en a écrit le récit sur un papier et c'est un récit qu'il m'a donné.
C'est comme ça que
donc
vous avez pris connaissance
de... Je l'ai de première main, on n'en a même pas beaucoup parlé. Il me l'a donné un souvenir. Et à cette époque, il va sans dire que lui non plus n'a absolument rien compris à cette prédiction de la voyante. Je veux dire que c'était une époque où les voyantes étaient très à la mode. N'est-ce pas? Il y avait des voyantes qui gravitaient autour de toutes les grandes personnalités, n'est-ce pas? Ou des milieux très, très, très élevés. Donc, c'est assez banal comme circonstance.
Alors, justement, vous parlez de milieux huppés. Et il faut savoir que la famille de Breuil est une famille de grands milieux. C'est la famille aristocrate. Hein.
Bien sûr, oui. C'est une famille qui remonte au XVIIe siècle. Elle est d'origine italienne, d'où la prononciation du nom qui a conservé la prononciation de Broglio, qui était le nom à l'italienne. Je vous signale par contre que le village de Normandie, qui est le fief de la famille, porte le nom de Broglie. Et que tout le monde dit Broglie, particulièrement dans le village, sauf détail abusant, la famille qui dit Broglie, même pour le village et pour le château. Alors donc, il descend d'un ancêtre d'Italie du Nord, de la région de Turin, ou même peut-être de la ville de Turin, je ne m'en souviens plus. Et cet ancêtre est venu un peu sur les traces de Mazarin, n'est-ce pas, de Mazarino. Et il est devenu un personnage remarquable. Du jour au lendemain, la famille était vraiment douée, parce que lui, en Italie, était un nobliot tout à fait ordinaire, et par un miracle que, probablement, dans lequel la France et le brillant de Paris ont joué un rôle, il est devenu un personnage important. Il a failli être maréchal de France. Et il ne l'a pas été, mais tout juste. Et alors, là, je ne sais plus ce que je raconte dans mon livre, mais je pense que son fils devait déjà être le premier maréchal de France. Et la famille est devenue célèbre immédiatement.
Voilà.
Ils ont été d'abord comtes de Revel, et puis ils sont devenus duc de Broglie, avec ce détail étonnant. Je ne sais plus si c'est le premier duc ou si c'est le second, mais en tout cas, quand la famille a reçu de Louis XV la terre qui est leur fief depuis l'heure actuelle en Normandie, la famille n'a pas pris le nom du fief. C'est le fief qui a pris le nom de la famille.
Effectivement,
c'est dire, c'est la marque de sa brillance extrême. Et puis ils ont eu des premiers ministres, des ambassadeurs, des présidents du conseil, enfin, etc. Et Louis de Broglie lui-même, eh bien, il était élevé dans ses châteaux de province, notamment en Anjou, dans le château de Saint-Amadour, dont il m'a dit un jour « Comment voulez-vous que la culture ne soit pas décadente de nos jours quand elle a perdu ses deux ingrédients essentiels qui sont l'oisiveté et l'enduit ?» Et il m'a dit à Saint-Amadour « On ne pouvait rien faire d'autre que réfléchir et lire. » Et c'est comme ça qu'on s'élevait l'esprit. Alors curieusement, quand son ancêtre est devenu duc de Broglie et que la famille a reçu du roi de France l'immense château, parce que Saint-Amadour était un château assez modeste, alors que le château de Broglie, c'est une forteresse. Enfin, il y a 1000 mètres carrés de toiture, il y a, je crois, des centaines de fenêtres. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, quand ils ont reçu ce château, ou donc à un moment donné, quand son propre père est devenu duc, ils sont allés habiter, eh bien, curieusement, Louis de Broglie a détesté cet endroit.
Et parce que c'est un lieu où on recevait beaucoup, c'est ça ?
C'est un lieu où on recevait beaucoup. Or, il faut dire que Louis de Broglie détestait la mondanité à l'âge de 7 ans. Il avait ça en horreur. Quand il a été assez grand pour être à table avec les adultes, il disparaissait de la table, et quand la duchesse, sa mère, s'inquiétait de sa disparition, elle faisait venir son valet de chambre personnel pour lui demander où le petit Louis était passé. Le valet s'en allait, savait très bien où il allait le trouver, et revenait, et d'un air naïf disait qu'il ne l'avait pas trouvé. En fait, il était évidemment complice de sa disparition, et le jeune Louis ne faisait rien d'autre que de lire tranquillement pendant que les autres échangeaient des banalités dans la réception.
Alors, un détail amusant, c'est que, en fait, cette famille, on est au 19e, vit comme au 18e.
Absolument, oui, hein, oui. Et on a le langage. Je trouve que le français de Louis de Broglie est largement resté celui du 18e siècle.
Même dans les années 80.
Je me trompe peut-être, je ne sais pas si les philologues seraient d'accord avec moi, mais ça m'a toujours produit cet effet.
Donc une famille assez stricte, où on réussit par définition.
Stricte, non. Non. D'abord, famille pas religieuse, famille d'incroyants. Louis de Broglie était un croyant, son frère Maurice également. Maurice avait là-dessus un langage d'expérimentateur. Il disait « je crois ce que je touche ». Louis de Broglie, quand il avait 85 ans, m'a dit un jour, d'une voix calme mais décidée, « non, vous savez, moi je pense qu'après il n'y a rien ». Donc, c'était une famille incroyante. Maurice de Broglie avait épousé une fille de la famille La Roche-Taillé qui, elle, était pieuse. Et Madame de La Roche-Taillé, donc la belle-mère de son frère, avait emmené une fois le jeune Louis en promenade et passant devant un marchand d'antiquités qui vendait des objets pieux, elle lui a dit « Louis, j'aimerais vous offrir l'un de ces objets ». Avec plaisir, madame, dit-il respectueusement. Je ne me rappelle plus. Ah si, son âge, je dois le connaître. Il avait une quinzaine d'années à peu près. Ils sont entrés et madame de La Roche-Taillé l'a invité à choisir l'objet et il a choisi un Bouddha.
Et c'est un Bouddha d'ailleurs qui ornera son bureau plus tard,
son
je
bureau,
crois.
Et qui en plus orne le mien. Car la famille m'a fait l'honneur de me l'offrir à la mort de Louis de Broglie. Et je possède un autre souvenir de lui, sans aucune valeur. Le Bouddha, d'ailleurs, paraît-il, n'a pas de valeur marchande non plus. C'est un objet de bronze très ordinaire, si je puis dire techniquement parlant. Et il y a un autre objet sans aucune valeur, qu'alors j'ai demandé à la famille de pouvoir emporter, parce que je savais qu'il n'avait pas de valeur. Il s'agit simplement d'une reproduction sur papier d'un tableau de Rembrandt qui s'appelle Le philosophe dans son laboratoire. Tableau sombre, pénétré d'une sorte de mystère. Et il faut se rendre compte que ce tableau a été acheté personnellement par le jeune Louis de Broglie quand il avait une quinzaine d'années. Et voilà un homme qui toute sa vie a eu devant lui le petit Bouddha de bronze qui symbolisait la liberté de l'esprit, non pas par le bouddhisme, mais par le choix élégamment provocateur qu'il en avait fait, et la pénétration de l'esprit et de l'étude incarnée dans le tableau de
ce philosophe.
Dans le tableau de Rembrandt, dont ce n'est qu'une reproduction. C'est parce que je savais que c'était une reproduction sans valeur que je m'étais permis de le demander en souvenir, ce qu'on m'a donné immédiatement, alors que le Bouddha, je n'aurais jamais osé parce que je craignais qu'il ne fût précieux. Et un jour, en parlant avec l'aîné de la famille, Robert de Luppé, je lui ai avoué cette timidité. Mais il dit, c'est absurde, il vous revient ce Bouddha. Et alors, on l'a recherché un peu dans la famille, on me l'a donné un petit peu à retardement parce que personne n'y avait pensé.
Et ce Bouddha et ce portrait du philosophe dans son laboratoire, est-ce que ça représente également le côté solitaire de Louis de Broglie?
C'est évident. C'est tout à fait évident. Alors, il faut dire que c'est quelqu'un qui a changé beaucoup. C'est-à-dire que dans son enfance,
D'abord, il était, comment dirais-je, extrêmement farceur, drôle dans son enfance. C'était un enfant facétieux. C'est un enfant à qui on reprochait son agitation. Il disait, ce n'est pas ma faute, j'ai trop de mouvements.
Il avait déjà de l'esprit.
Il avait déjà de l'esprit. Et puis, par la suite, quand il a grandi, eh bien, il grandissait dans le milieu très mondain de sa famille. Donc, on le voit sur certaines photos avec des jeunes gens et des jeunes filles de son âge, plaisantant. J'ai une photo comme ça où il plaisante, je crois, chez un marchand de tapis ou quelque chose de ce genre-là. Avec des incartades, d'ailleurs. Par exemple, ils avaient un membre de leur famille, alors je ne me rappelle absolument pas le lien familial, mais c'était une dame qui possédait un château sur les bords de Loire, le château de Chaumont. Très joli château qui est en hauteur, pas grand, avec des jolies tours. Elle habitait là-bas et elle avait dans la famille une réputation un peu douteuse. Elle passait pour quelque peu libertine. J'ignore absolument si c'était fondé ou pas. Alors, bien entendu, ces sales gamins prenaient leur bicyclette, remontaient les bords de Loire ou les descendaient, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, je ne sais plus dans quel sens ça se faisait, et allaient voir leur tante, disons, je ne sais plus quel lien de parenté. C'était aussi une marque de leur liberté d'esprit. Alors, cela étant, tout le reste du temps, le jeune de Broglie était plongé dans l'étude. Il était plongé dans l'étude de l'histoire, passion de la famille, passion de lui-même. Vous savez que quand il est devenu vraiment âgé, qu'il avait, je ne sais pas, 80 et quelques années, un jour il m'a fait une révélation étonnante. Il m'a dit : « Je possède plus de livres d'histoire que de livres de physique. » Ce qui d'ailleurs se comprend, parce que l'histoire constitue un savoir extrêmement étendu, et donc pour l'acquérir, on a besoin d'un très grand nombre de livres, alors que la physique au sens de De Broglie était concentrée dans un très petit nombre d'ouvrages. Enfin, il y en avait un millier quand même, mais ça n'était pas une très grande bibliothèque que nous possédons maintenant. Nous ne la possédons pas, pardon. Elle appartient à l'État.
L'État l'a confiée
à l'Académie, qui a eu la bonté de nous la confier. Je dis que nous la possédons parce qu'elle est chez nous depuis si longtemps à la Fondation que je nous en sens légèrement propriétaire, mais ce n'est pas vrai du tout, en réalité. Et alors, il était donc plongé principalement dans l'étude de l'histoire, mais c'est là qu'arrive l'influence de son frère. Son frère, Maurice, avait 17 ans
voilà,
de plus que lui.
Hein.
N'est-ce pas ? Sa grande sœur, Albertine, avait 20 ans de plus que Louis de Broglie. C'est dire que Albertine a joué le rôle d'une autre mère, et que Maurice a joué le rôle d'un autre père. Maurice avait la passion de la science. Ça n'était pas convenable.
Oui.
Quand on est un Broglie, on fait de l'histoire, on entre dans la politique et on est, dans le pire des cas, ambassadeur, de préférence Premier ministre quand même. Et donc, il fallait qu'il se débrouille pour faire de la science. Alors Maurice de Broglie a triché, il est entré à l'école navale. Je ne veux pas être méchant avec l'école navale, mais en fait, le niveau scientifique de l'école navale n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas un lieu fait pour la science. Mais enfin, c'est le seul moyen qu'avait trouvé Maurice de Broglie pour faire de la science sans que ça se voie trop. Parce que être à l'école navale, c'est très convenable, quoi. Broglie devait devenir amiral après ça, ce qu'il n'est jamais devenu, d'ailleurs. Et alors, il avait eu un personnage, pardonnez mes trous de mémoire, mais tout d'un coup, le nom de ce professeur de lycée qui a joué pour eux un grand rôle m'échappe, mais ce n'est pas grave. C'était un remarquable professeur de lycée.
Au lycée Janson de Chailly.
À Janson, oui, c'est ça. Et alors, ce professeur a été nommé ensuite à Toulon, et voilà-t-il pas que Maurice de Broglie arrive à Toulon, à bord d'un navire de guerre, où il suivait une instruction de radio pour la marine. Il n'a pas tardé à retrouver son remarquable professeur, et à ce moment-là, cet intelligent professeur de lycée connaissait sur la physique moderne manifestement plus que la plupart des professeurs de faculté. Et donc, il a raconté à Maurice de Broglie tout ce qu'il savait. Mm-hmm. Ce qui lui a ouvert son brillant esprit, il s'est mis à travailler sur la physique et il n'a pas tardé à raconter ça à son jeune frère. Son jeune frère qui, jusque-là, avait fait des langues, avait fait de
l'histoire. Il avait quand même obtenu son bac à 16 ans,
Louis de Broglie. Il avait obtenu son bac très jeune, je ne sais pas, il devait être licencié en histoire. Lettres en histoire, mmh. Il avait fait des études.
Donc il partait plutôt pour une carrière littéraire.
Et il partait pour une carrière littéraire et fort brillante, évidemment. Vous savez, je dis évidemment parce que c'est ces familles où la brillance était évidente, quoi. Mais voilà que Maurice de Broglie lui raconte ce qu'il est en train de faire. Louis de Broglie s'est pris de passion pour la physique. Il s'est mis à l'étudier fiévreusement, tout seul, au début. Et voilà qu'arrive en 1911, ce qui veut dire que Louis de Broglie avait 19 ans à ce moment-là, qu'arrive un grand congrès de physique qui était exactement le premier congrès de physique qui se soit jamais tenu.
Il s'est tenu
à Bruxelles, c'était le congrès Solvay, où Solvay, l'inventeur du procédé de la soude caustique, qui était devenu très riche grâce à ça, qui avait des prétentions scientifiques tout à fait abusives d'ailleurs, il se trompait tout à fait sur sa valeur scientifique, mais ça n'a pas d'importance. En raison de ça, il a, et par sa puissance financière, il a rassemblé, je crois, entre 15 et 20 personnalités de la physique européenne de l'époque, parmi lesquelles se trouvaient les plus éminents physiciens de ce temps.
Donc Maurice et Louis de Broglie y participent ?
Non, pas Louis. Louis, d'ailleurs, il n'y a pas de raison, il avait 19 ans.
Il aurait pu être invité par son frère.
Pas même, là, même pas invité. Non. Il n'était rien, enfin, il n'y avait aucune raison qu'il y aille. Mais il y avait Langevin, à l'époque, qui était un physicien très connu à ce moment-là. Et Langevin et Maurice de Broglie sont devenus les secrétaires du Congrès. Si bien que Maurice de Broglie est revenu à Paris, en ayant les minutes du congrès. Il faut dire que les minutes du congrès laissent rêveur. Elles étaient manuscrites de la main des plus célèbres physiciens de l'époque, écrites dans toutes les langues de l'Europe, car, me soulignait toujours Louis de Broglie, c'était ça l'Europe, c'est pas ce que nous racontons maintenant. Et il y avait une vraie Europe où il n'y avait pas de passeport, où il n'y avait pas de papier, où on passait d'un pays à un autre sans s'en apercevoir, et où le président du congrès, qui était Anton Lorenz, qui était un très grand physicien, s'adressait à tous les membres du congrès, à chacun dans sa langue. Et il faut voir quelle était cette langue, n'est-ce pas ? J'ai pu voir l'échantillon français, c'était impressionnant. Maurice de Broglie rapporte ça, prête les minutes du congrès à son frère, qui est aussitôt bouleversé, passionné, décide de changer de vie et de devenir physicien.
Et à ce moment-là, on marque une courte pause, change le chat, et on se retrouve tout de suite après pour invoquer le deuxième pan de l'histoire de la vie de Louis de Broglie, l'aspect physicien. À tout de suite.
Canal Académie vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années, ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combe, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combe nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission, elle est en libre écoute sur Canal Académie.
Suite de notre émission Nabivert en compagnie de Georges Lechac, ancien collaborateur de Louis de Broglie, grand physicien, dont nous dressons le portrait dans notre émission. Alors, avec vous Georges Lechac, on vient de se quitter sur Louis de Broglie qui commence une carrière de physicien, en tout cas qui se lance dans la physique. On est à cette période dans les années 1911-1912, et puis va arriver la Première Guerre mondiale. Et là, je crois que ça va jouer également un rôle très important dans sa carrière.
Il y a quand même Il y a quand même une chose que je voudrais souligner tout de suite. C'est que De Broglie n'était pas un autodidacte en physique. Il a fait une licence de physique en faculté, comme tout le monde. Et c'est quand il était en licence en faculté, où il brillait d'un vif éclat, que l'un de ses camarades, qui est d'origine russe d'ailleurs, lui a dit « Vous serez un jour un prince de la science », connaissant son titre nobiliaire.
Oui, ce n'est pas un prince de sang. Hein,
autrement dit, l'histoire selon laquelle Louis de Broglie aurait été un historien de métier, qui n'a jamais été d'ailleurs, et un physicien amateur, est une histoire idiote. Je tiens à le dire de façon claire.
Eh bien, je crois que c'est dit.
Oui. Donc, alors, au passage, il y a eu donc ce congrès. Ce
en
qu'il
1911.
Faut dire, surtout, c'est que Louis de Broglie a changé de vie du jour au lendemain. Il a abandonné toutes les mondanités. Il n'allait plus aux réceptions.
Ce qu'il n'aimait déjà pas à la base.
Oui, c'est ça. Il n'assistait plus aux dîners. Il était un brillant joueur de bridge. Il a cessé d'y jouer. Il était un brillant joueur d'échecs. Il n'y a plus jamais joué.
Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas faire, Louis
de Broglie ? Il est devenu... si sportivement, il devait être nul. Il était... Et il ne me l'a jamais dit, mais ça me paraît évident. Et donc, il est devenu un moine de la science.
Il aurait pu continuer ses activités annexes, j'allais dire, le bridge, les échecs. Pourquoi s'arrêter de
vivre les
mondanités ? Eh bien,
parce que il était un homme passionné d'études et qu'il consacrait à l'étude tout son temps. Absolument tout son temps. Alors, il avait des distractions. Par exemple, quand il a déménagé et qu'il habitait Neuilly, il allait se promener au bois de Boulogne. Il était très bon marcheur. Il était même un très bon marcheur à tel point, c'est un peu drôle, c'est que, vous savez, quand il y avait une grève de transport, il allait à l'Institut Henri Poincaré et à l'Académie à pied.
Depuis Neuilly.
Ce qui est loin, n'est-ce pas ? Ça doit faire 7-8 kilomètres, j'ai l'impression. Bien entendu, il n'avait pas de voiture, c'était pas dans ses manières.
Alors qu'il en avait les moyens.
Oui, ce moyen n'était pas extraordinaire, n'en croyez rien. Il ne faut pas oublier que les Broglie étaient ruinés, donc il n'avait pas de moyens qui lui venaient de sa famille. Il était professeur, un professeur évidemment a les moyens de s'acheter une voiture.
Il n'a pas vécu dans le faste de ses ancêtres.
Non, mais absolument pas. Vous savez que quand il était jeune homme, il habitait dans un hôtel particulier à Paris, où il y avait... sur deux volées de gradins en arche, des valets de chambre à chaque bout qui attendaient le passage d'une personnalité éventuelle ou d'un carrosse qui viendrait apporter quelque chose, par exemple une chose aussi importante, une carte de visite ou quelque chose de ce...
C'est ça qui nous paraît bien... Bien hors du temps maintenant, alors
oui,
que c'était il y a très peu de temps.
Alors, oui, c'était quand même il y a presque un siècle,
oui.
N'est-ce pas ? Mais quand il racontait ça, il trouvait ça aussi anachronique que vous. Hein. Il n'imaginait même plus qu'il avait pu vivre dans un temps pareil. Et on peut ajouter quand même une ou deux petites anecdotes amusantes, parce que l'éducation marque quand même quelqu'un avec une force qu'aucun esprit ni aucune expérience ne peut enlever. Par exemple, il ne remplissait ni ne vidait sa baignoire. On le faisait pour lui. On lui étendait de la pâte dentifrice sur sa brosse. N'est-ce pas ?
Parce qu'il était élevé dans cette
principe. Il était élevé comme ça. Alors c'est amusant, quand il était à l'université, par contre, il se comportait comme un citoyen ordinaire et même plutôt mieux que les autres. Par exemple, c'est le seul professeur que j'ai jamais vu essuyer son tableau avec le plus grand soin après son cours. Après tout, les autres professeurs laissent ça aux appariteurs. Je dois vous dire que moi, je n'ai pas beaucoup enseigné et je n'étais pas duc de Broglie, mais j'essuyais aussi mon tableau. Mais la plupart des professeurs ne le font pas. Ils ne sortaient jamais d'une pièce à l'université sans éteindre la lumière. Mais pas chez lui, on l'éteindait derrière lui.
C'est quand même bien cloisonné. Si nous revenions à l'aspect...
À l'aspect scientifique. Alors donc, avec la guerre, il a été au service militaire en 1913, c'était 21 ans,
oui. Pas.
Il est parti au service militaire au Mont Valérien, dans lequel il était dans une section de radiotélégraphistes. Je tiens à le souligner, car il va se trouver dans le sous-sol de la Tour Eiffel pour la radio de la Tour, Eiffel, ce qui va l'éloigner du front. Ça n'était pas un planqué. Il était là parce qu'il était physicien.
Voilà.
La preuve, c'est que le fils aîné de sa sœur Albertine de Luppé a été tué dans le premier mois de la guerre.
Donc, ce n'était pas en fonction de son nom qu'il
c'était
était...
Pas, son nom n'y était pour rien. Aussi bien lui que son frère Maurice étaient dans les radiocommunications, mais tout bêtement parce qu'ils étaient des physiciens.
Oui, et puis
ils étaient des physiciens tous les deux. Il est resté là-bas très longtemps, parce que vous savez peut-être qu'après une guerre, on ne démobilise pas comme ça, on ne prend pas une armée qu'on lâche comme ça dans la vie civile, parce qu'on provoquerait des vagues de chômage et des crises économiques.
Oui.
Donc il a mis un ou deux ans avant d'être libéré de l'armée, et immédiatement il s'est mis à suivre les cours du Collège de France et les séminaires qu'il n'avait ratés pendant toutes ces années. Et alors, il a travaillé au laboratoire de son frère. Car son frère était un grand expérimentateur qui avait un laboratoire mondialement connu sur les rayons X et qui n'était pas dans l'université. Son laboratoire était rue Lord Byron, dans l'hôtel particulier de ses beaux-parents. Et donc, Louis de Broglie est entré là, après la guerre. Et là-dessus, il y a une ou deux anecdotes importantes qui ne sont pas simplement amusantes. C'est que Louis de Broglie arrivait tous les matins au laboratoire, ponctuellement, tôt, comme tout le monde, saluait tout le monde parce qu'il était d'une courtoisie évidemment parfaite et depuis le plus modeste laborantin jusqu'au directeur du laboratoire, il saluait tout le monde et s'enfermait dans une petite pièce qui était son bureau et où il s'adonnait à des activités mystérieuses.
On savait qu'il travaillait. Des activités mystérieuses.
On savait qu'il travaillait et on ne savait pas sur quoi. Il ne prenait part à la vie du laboratoire que si on avait un conseil théorique à lui demander sur les rayons X ou la physique atomique. Alors là, on frappait, on lui demandait, il répondait très, très gentiment et prenait le temps qu'il fallait pour répondre. Et
mais personne ne lui posait de questions sur ses travaux dans son bureau.
Se renfermait, personne.
Pourquoi ?
Personne.
Parce que, justement...
Parce qu'il était un homme secret, bizarre. Il était bizarre, hein. Et même son frère ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, vous savez bien, il faisait de la physique.
Parce qu'accepter de faire entrer son frère dans son laboratoire sans savoir ce qu'il fait...
Oui, son frère ne passait pas pour un imbécile. Hein.
Oui.
Alors, il savait très bien qu'il faisait entrer quelqu'un qui avait de la valeur. Mais il ne faut pas oublier que Maurice de Broglie était expérimentateur. Et quand Louis de Broglie a raconté que ce qu'il a trouvé, c'était que l'électron avait une onde... Alors, je dois vous dire franchement que la réponse unanime a été en substance de quoi, n'est-ce pas ? C'est idiot que l'électron ait une onde, n'est-ce pas ? Parce que il faut dire que l'électron a une onde à l'époque était aussi bizarre que si je disais que le verre d'eau qui est devant moi a une onde. En fait, il en a une.
Ou qu'un caillou dégage une fréquence. Hein.
Voilà, qu'un caillou dégage une fréquence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça ne tient pas debout. Et qu'il savait en calculer la longueur, et donc qu'il en donnait des moyens d'observation, n'impressionnait personne. Il y avait là-bas un brillant collaborateur à qui il a essayé de faire prouver expérimentalement que les électrons se diffractent, c'est-à-dire qu'ils... Pour expliquer de quoi il s'agit, c'est très simple. Imaginez que vous regardiez dans la nuit, à travers un rideau de tulle, des réverbères allumés. Vous savez bien que vous avez le réverbère vous paraît être au centre d'une espèce de croix à échelons qui suit la trame du tissu. Ce que vous voyez est un phénomène extraordinaire, parce que ça n'est rien d'autre que la preuve des propriétés ondulatoires de la lumière qui avaient été découvertes longtemps auparavant par Jung et par Fresnel. Quand on pense le mal qu'ils avaient eu à faire croire que ce qu'ils racontaient était vrai, on est ému maintenant que la chose pour nous est évidente, de nous rendre compte qu'on peut l'expliquer à n'importe qui, sans même faire l'observation ensemble, sur un simple rideau de tulle. Eh bien, ils prétendaient qu'on pouvait faire pareil avec des électrons. Alors on a trouvé ça idiot. Il s'est adressé à un très bon physicien qui a essayé l'expérience, et l'histoire est racontée par Louis de Broglie, et il me dit, et savez-vous pourquoi, me dit-il sur un ton provocateur, parce qu'il essayait de construire une télévision dans laquelle, me dit-il, le faisceau d'électrons aurait dû être animé par des effets mécaniques, par des forces mécaniques. Et il lui dit, vous voyez à peu près la chance qu'il avait d'y arriver. Et il ajoute, cynique, et c'est comme ça qu'il a raté le prix Nobel. Et alors, le prix Nobel n'a pas été raté, lui, par un grand physicien américain qui, quelques années après, avait aperçu un phénomène sur des électrons qui était très bizarre. Les faisceaux d'électrons s'orientaient dans certaines circonstances dans des directions privilégié, ce physicien qui s'appelait Davison n'y a rien compris. Mais comme il était un grand physicien et que, selon le mot de Pasteur, un savant est un homme qui sait s'étonner, il a noté ce point dans son cahier de laboratoire parce qu'il a très bien compris qu'il y avait quelque chose à reconnaître.
Parce qu'à ce moment-là, quand vous nous expliquez tout ça, on est dans quelle année, 1924
23.
Louis de Broglie a déjà publié sa thèse.
Non, pas du tout, c'est 23. Arrive 24. La thèse de De Broglie est soutenue, elle commence à se diffuser, mettons 25. Un exemplaire de la thèse arrive entre les mains de Davison aux États-Unis. Il lit ce truc-là et il comprend à l'évidence que ce qu'il a vu, c'était l'onde de De Broglie. Il a refait l'expérience et il a montré que c'était bien une onde et qu'elle avait exactement la longueur que De Broglie avait prévue. Et pour parler comme De Broglie, et lui, il a eu le prix Nobel. Et il ne l'a pas volé.
Il a eu le prix Nobel en 1929.
Il l'a pas volé. Non, De Broglie a eu le prix Nobel en 1929. Davison a dû l'avoir 2 ou 3 ans plus tard, au contraire. Vous savez, De Broglie, il a eu le prix Nobel sur l'indication d'Einstein. Alors, ça fait bouger les jurys. Donc, il a eu le prix Nobel. Très vite. L'expérience de Davison date de 1927. Je vous signale que la plupart des gens connaissent l'expérience sous le nom de Davison et Germer. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, parce que c'est même la signature des deux auteurs. Mais Germer était simplement un assistant de Davison. Le véritable auteur de l'expérience, le cerveau de l'expérience, c'était Davison. C'est pour ça que je le cite tout seul. Alors après ça, commence la brillante carrière, il devient maître de conférence à l'Institut
Henri
Poincaré, sous un professeur fort brillant, Léon Brillouin, mais Léon Brillouin a eu quand même comme ça un maître de conférence qui était lauréat du prix Nobel. Pas longtemps, parce que Brillouin est parti et De Broglie a pris sa place. Et alors De Broglie a commencé une brillante carrière. Enfin, pour vous donner un exemple, il y a, je crois bien, 270 thèses. Il était l'auteur de 200 mémoires scientifiques, de 45 livres techniques, mais il en a écrit des quantités aussi qui étaient de semi-vulgarisation, enfin disons de plus grand public, quoi. Je n'ose pas dire de philosophie, parce qu'il détestait la philosophie, mais tout le monde le traitait de philosophe et ça l'énervait. Donc c'est dire la brillante carrière dans laquelle il s'est lancé.
Et c'est de là que naît le terme de mécanique ondulatoire.
Alors, le terme de mécanique ondulatoire naît depuis le début, n'est-ce pas ? C'est de la mécanique, puisqu'on décrit le mouvement d'objets matériels, et elle est ondulatoire, puisque les objets sont guidés par des ondes.
Et c'est ce qui est en relation avec ce qu'on appelle la physique quantique.
Et c'est ce qui est en relation avec la physique quantique. Alors écoutez, la physique quantique, moi je ne vais pas en parler, je suis là pour parler sur De Broglie, mais disons quand même que l'équation de ces ondes a été trouvée par un grand physicien autrichien qui était Schrödinger, dont l'équation porte le nom, que auparavant le schéma de l'atome qui est admis sous forme diverse jusqu'à présent et qui a joué un grand rôle était l'atome de Bohr, dont le nom est tout aussi célèbre. Il est quand même poli de prononcer le nom de Planck, qui était à l'origine de tout. Car si Planck n'avait pas découvert les quantas, il n'y aurait rien. Il n'est pas question de taire le nom d'Einstein, dont l'un des grands physiciens du siècle, Max Born, a dit que s'il n'avait pas écrit un mot de relativité, il aurait quand même été le plus grand physicien du siècle.
Mais en cela, Louis de Broglie allait quand même beaucoup plus loin encore qu'Einstein.
Ah ben, bien entendu. Alors, je dis juste deux mots sur les travaux de Louis de Broglie. Louis de Broglie a aidé différents laboratoires. Gratuitement, je dois dire, n'est-ce pas ? Il n'a jamais touché un sou d'un laboratoire industriel. Il a aidé des laboratoires, il a aidé des dizaines et des dizaines d'élèves qui travaillaient autour de lui. Mais, personnellement, il n'appartenait pas à la catégorie des résolveurs de problèmes. Pour la simple raison qu'un problème n'avait pour lui d'intérêt que s'il changeait la face de la physique. Et donc, les autres problèmes étaient des petites choses qu'il réservait éventuellement à des discussions ou à divers travaux venant en aide à d'autres physiciens. Et on peut dire que la plus grande œuvre qu'il a accomplie après sa découverte de la mécanique ondulatoire, ça a été la théorie de la lumière. Alors, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, c'est que la lumière, dont tout le monde admettait depuis Einstein qu'elle était formée d'ondes et de photons, qui étaient des particules, la lumière n'entrait pas jusque-là dans la mécanique ondulatoire. Par exemple, l'équation de Schrödinger, pour diverses raisons, ne peut pas la décrire. La théorie de la lumière de De Broglie est basée sur des idées extrêmement compliquées, notamment sur une célèbre équation de l'électron qui porte le nom d'équation de Dirac. Et donc, il a fait une théorie de la lumière qui n'est pas la théorie de Maxwell. Je rappelle que Maxwell était le plus grand personnage de l'électromagnétisme et que Maxwell est celui qui a prouvé que la lumière est une onde électromagnétique, ce qui est probablement un des résultats scientifiques les plus extraordinaires qu'on ait jamais atteint. Là-dessus, je peux vous dire une anecdote amusante, c'est que Maxwell considérait Ampère comme le Newton de l'électricité. Einstein considérait Maxwell comme le plus grand physicien depuis Newton. Et évidemment, maintenant, on a tendance à trouver que le plus grand physicien depuis Newton, c'est Einstein. C'est dire qu'il y a, dans tout ce petit monde, une espèce d'escalier qui est établi, qui est peut-être un peu abusif, ça n'a pas d'importance, mais tous ont droit, certainement, à des marches d'honneur sur cet escalier. Alors donc, après Fresnel et Young, l'optique est gouvernée dans l'esprit de tout le monde par les ondes électromagnétiques de Maxwell. Et Einstein a fait, depuis Maxwell, la plus grande découverte sur la lumière quand il a supposé qu'il y avait des photons dans la lumière qui transportaient l'énergie. Je passe sur les longues querelles à ce sujet.
Mais des photons qui ont une masse.
Chez Einstein, non. Alors il faut dire que dans la physique moderne, on n'hésite pas à avoir des particules qui n'ont pas de masse, mais qui transportent de l'énergie, qui tournent sur elles-mêmes et qui n'occupent pas de place dans l'espace. Mais vous savez, la physique moderne ne se dégonfle devant rien. Donc, chez Einstein, les photons n'avaient pas de masse, mais ça ne les empêchait pas d'avoir de l'énergie. Vous savez, mathématiquement, quand on écrit la théorie, c'est beaucoup moins rigolo que ça a l'air. Hein, c'est...
Oui, oui.
Bon, dans la théorie de De Broglie, les photons ont une masse. Ce qui a fait un nouveau scandale après celui des photons d'Einstein. Là, il y a toute une partie des physiciens qui ont commencé à comprendre que De Broglie ne valait pas grand-chose en physique. Je vous signale que Heisenberg, qui est l'une des étoiles de la physique moderne, a dit que la théorie de la lumière de De Broglie avait une importance égale à la découverte de son onde. Et vous savez, Heisenberg savait de quoi il parlait.
Oui.
Et alors donc, cette théorie de la lumière de Broglie, qui était construite en fait à partir de la théorie de l'électron de Dirac, lui a permis, à lui et à celle qui est, je pense, sa plus brillante élève, Marie-Antoinette Tonnelat, ça leur a permis de construire une particule associée à la gravitation, et à la gravitation d'Einstein, c'est-à-dire à celle de la relativité générale. Et ils ont construit une théorie qui est en fait de la catégorie qu'on appelle les théories du champ unitaire, c'est-à-dire où l'on réunit la gravitation d'Einstein et l'électromagnétisme de Maxwell. Donc cette théorie réunissait à leur manière, parce qu'ils venaient de la mécanique quantique et non pas de la relativité générale, réunissait la gravitation et l'électromagnétisme. Là, je me permets de mettre un petit grain de sel personnel, c'est que il n'y a pas longtemps, quelques années, j'ai découvert une faute dans la théorie de Broglie et Tonnelat. La faute n'était pas une erreur comme ça fortuite, c'est que ils avaient identifié entre elles des grandeurs qu'ils n'auraient pas dû identifier parce qu'elles n'étaient pas de même nature. Et que si l'on corrige la faute qu'il y a dans cette théorie du graviton, on s'aperçoit qu'en réalité, l'union de la gravitation avec l'électromagnétisme qu'ils ont mis au point dans la théorie n'est pas avec l'électromagnétisme lié à l'électron, mais avec l'électromagnétisme lié à des particules magnétiques, ce que l'on appelle des monopôles magnétiques. Autrement dit, ce que j'ai montré, c'est que la théorie de De Broglie et Tonnelat peut faire redémarrer la théorie du champ unitaire d'Einstein dans une direction nouvelle.
Il suffisait, entre guillemets, de corriger cette petite erreur d'appréciation pour redémarrer sur autre chose.
C'était une toute petite erreur, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une vraie erreur, ce n'est pas une bêtise qu'ils font. C'est une simplification abusive, simplement, qu'ils ont commise. Et elle se trouve que cette simplification, dès qu'on la lève, ouvre la voie sur autre chose. Tout à fait.
Alors, Georges Lechec, on va peut-être revenir sur les applications concrètes des travaux de Louis de Broglie, puisque finalement, dans la vie de tous les jours, à quoi nous servent les travaux de Louis de Broglie ?
Eh bien voilà, je vais vous dire quelque chose de simple. C'est que s'il y a un physicien du XXe siècle qui a eu une action directe sur notre vie quotidienne, sur l'industrie et sur tous les moyens de communication, c'est bien lui. Et ceci pour une raison assez surprenante. C'est que, du moment que les électrons ont une onde, alors ils vont changer de comportement dans la matière. Entendons-nous. Disons plutôt que l'image que nous nous en faisons va se rapprocher du comportement réel dans la matière. Jusque-là, on s'imaginait que les électrons étaient des petits points qui naviguaient dans la matière et qui se cognaient aux atomes ou entre eux. Un peu imaginé, comme si on jouait au foot dans une forêt et que le ballon rebondissait sur les troncs d'arbres. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est que les électrons diffractent, C'est-à-dire que quand il s'approche d'un tronc d'arbre, c'est-à-dire d'un atome, ils ne rebondissent pas de façon simple dessus. Ils peuvent, par exemple, passer à travers, pratiquement, s'ils ont une fréquence particulière, ou ils peuvent s'irradier comme de la lumière autour de cet atome. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'image qu'on se fait de la conduction électrique des métaux est complètement nouvelle. Et donc, l'électricité se propage dans la matière d'une manière qui est complètement différente de celle qu'on croyait. Quelles en sont les conséquences ? Eh bien, sans entrer dans les détails, une des premières conséquences, mais comme vous voyez, elle est venue longtemps après quand même, c'était 1948, j'ai l'impression, quelque chose comme ça, c'est le transistor.
Le transistor.
Le transistor est un fils de l'onde de Broglie. Vous savez que quand on a célébré le cinquantenaire de la mécanique ondulatoire, le premier télégramme de félicitations était signé des inventeurs du transistor, qui le savaient très bien. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lampes de radio qu'on avait auparavant vont être remplacées par des petits objets. Au départ, c'était gros comme un petit dé à coudre. Maintenant, on les a par millions dans un petit volume.
Tout à fait, maintenant c'est très
n'est-ce
petit.
Pas ? Ça n'a plus aucun rapport. Ça veut dire que l'ordinateur de von Neumann qui était utilisé à Boston pour calculer la bataille de l'Atlantique, qui remplissait tout un immeuble, qui avait une escouade de pompiers pour éteindre les incendies éventuels, une escouade de physiciens qui changeaient les lampes à toute vitesse parce qu'elles grillaient les unes après les autres, cet ordinateur-là tient maintenant dans une montre-bracelet.
Oui.
Un appareil comme le téléphone portable que j'ai dans la main a une capacité informatique qui est des milliards et des milliards de fois plus grande que cet ordinateur qui était considéré comme un sommet de la technique à l'époque. Parce que, en plus, en réduisant de plus continuellement la dimension des transistors et des composants électroniques, on a inventé les circuits intégrés, c'est-à-dire en fait des dispositifs électroniques dans lesquels ils ont été appliqués comme des petites couches de peinture et non plus comme des vrais éléments qu'on soude et qui sont lourds et compliqués. Eh bien, vous voyez, ce que vous avez là, c'est la télévision moderne, c'est la radio, c'est l'automatisation de l'industrie, la téléphonie, je viens de la cité, les appareils photographiques. J'ai devant moi un appareil photographique ridicule. C'est un petit objet grand comme une boîte d'allumettes. Mais si vous saviez ce qu'il y a dedans, c'est un monstre, absolument. Et tout cela est en fait le fruit de la mécanique ondulatoire. Et donc, dont le père est Louis de Broglie. Il a donc fourni une clé qui a donné une révolution industrielle. La nouvelle révolution industrielle, c'est la révolution de l'électronique. D'ailleurs, de Broglie a dit un jour, le XXe siècle restera comme le siècle de l'électron.
Mais alors, comment vous expliquez que ce personnage soit devenu aussi inconnu maintenant ?
Bon, alors écoutez voir. D'abord, je veux vous dire qu'il n'est pas le seul savant de génie méconnu. Vous savez que si on se rendait compte de l'influence d'Henri Poincaré sur la science moderne, et y compris pour tout ce dont je vous parle, elle est certainement beaucoup plus grande que celle de Raymond Poincaré, qui a des avenues alors que Poincaré n'a pas de rue. N'est-ce pas ? Donc, ça n'est pas le seul. De la même manière, on vous parle goulûment de la tectonique des plaques et on oublie qu'il y a un géologue de génie allemand, Wegener, qui a imaginé la dérive des continents un siècle avant, qui a été traité de crétin et qui avait tout simplement raison. Donc, De Broglie est en bonne compagnie.
Mais De Broglie a eu quand même une certaine aura à une certaine époque.
Alors, voilà ce qui est arrivé. C'est que je vous ai dit que De Broglie ne s'intéressait à la physique que dans la mesure où il est capable de changer notre vision du monde. Le reste, ça n'était pas son domaine, comme il disait. Or, on vous raconte que les particules et les ondes s'unissent. Mais elles s'unissent comment ? Eh bien ça, nous n'en savons rien. C'est-à-dire que la mécanique quantique moderne répond par des probabilités. Elle répond simplement que si vous envoyez l'électron dans telle direction, il y a des chances qu'il parte dans telle autre direction. Elle le fait d'ailleurs admirablement, et c'est bien pourquoi elle a un pouvoir prédictif, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de la diminuer. Pour De Broglie, ça n'était pas une réponse. Il fallait qu'il comprenne comment les particules s'engrènent sur les ondes et comment elles marchent. Il a essayé de le faire. Il n'y est pas parvenu. Il avait à un moment donné une équipe puissante, dont j'étais, qui n'y est pas parvenu non plus. Et je pense que c'est un problème qui est pour les siècles futurs. Peut-être pour les décennies, mais à mon avis, plutôt pour les siècles. Vous savez, il y a des problèmes comme ça qui traînent dans la science pendant très longtemps. Les ondes lumineuses, par exemple, ont traîné très longtemps avant qu'on sache en faire quelque chose.
Mais comment cela explique-t-il le fait que, d'un seul coup, on ne sache plus qui c'est, Louis de Broglie ?
Eh bien, parce que je crois qu'il faut se rendre compte d'une chose simple, c'est que le public s'imagine que les scientifiques ont massivement un esprit novateur et audacieux. C'est faux. En réalité, les scientifiques sont des hommes comme les autres. Ils aiment avoir le sol solide du passé et des règles et de règles fixes sous les pieds pour vivre. Et quand on propose une idée qui sort du rang, cette idée est très mal reçue. Je ne vous ai pas raconté que quand De Broglie a proposé la mécanique ondulatoire, il y a un physicien étranger qui a dit « c'est la comédie française ». Ce qui n'était pas bon du tout, car si c'était vraiment la comédie française, celle de Molière et de Racine, pourquoi pas, ça n'a pas grand à voir, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Ce cher homme voulait dire les folies bergères. C'est ça qu'il entendait. Vous savez que quand Einstein a montré la thèse de De Broglie à l'un de ses plus proches amis, qui était un grand physicien, Ehrenfest, Ehrenfest a lu la thèse et lui a dit « Écoute, si ça, c'est vrai, c'est que je ne comprends rien à la physique. » À quoi Einstein, qui avait la dent méchante de temps en temps, lui a répondu « Mais si, la physique, tu la connais très bien, c'est le génie que tu ne connais pas. » Et alors, en réalité, on a détesté De Broglie parce que il a jeté un pavé dans une mare tranquille qui se déployait gentiment. C'est le genre de choses qui ne se pardonnent pas.
Et même en étant à l'Académie des sciences ou à l'Académie française, ça ne jouait pas sur son aura.
Il y était déjà.
Oui, il y était déjà.
Il y était déjà. Et en réalité, ce dont je vous parle, c'était une idée de jeunesse. Et il l'a abandonné pour essayer de faire de la physique comme tout le monde. Et puis, au bout de, je sais pas, une trentaine d'années, quelque chose comme ça, oui, au bout d'une trentaine d'années, il est revenu à ses idées de jeunesse. Et donc, on a décidé qu'il était incorrigible, qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Ajouter à ça, pour l'étranger, la légendaire légèreté de l'esprit français, que vous connaissez très bien, vous en aviez un bel exemple là-dedans. Et c'est comme ça qu'il a été oublié.
Il ne recherchait pas forcément à être connu non plus de son
mais
côté.
Rien, mais rien, vous savez que quand il est mort, on a découvert dans son bureau un papier dont je connaissais l'existence et qui disait qu'il veut être enterré sans armoirie. Vous comprenez l'allusion, et sans discours, modestement, comme n'importe qui. Eh bien, il l'a eu. Et comme à ce moment-là, il y a, je ne me rappelle plus, quel comédien connu qui est mort, il a eu des fastes splendides que De Broglie n'a pas eu, et qu'il ne souhaitait pas avoir, simplement. Alors, il faut vous dire que vous m'interrogiez sur ma propre carrière. Ben, elle a été mauvaise.
Mauvaise en quoi ?
Eh bien, parce que j'ai toujours dû me bagarrer pour la moindre promotion qu'il plus souvent m'était due de façon évidente, parce que j'étais frappé au sceau de l'infamie de l'élève proche
puisque
de
Puisque vous étiez
Debreuil,
le collaborateur de Debreuil.
Parce que
et
j'étais
vous portiez...
son proche collaborateur. Mais vous savez, quand je montrais un travail à Debreuil et qu'il me le rendait en donnant comme premier commentaire, j'ai trouvé ça très clair. Bon, pour moi, ça valait un prix Nobel, n'est-ce pas ? Une fois, j'ai fait un travail dont il m'a dit « C'est dommage qu'Einstein soit mort, ça l'aurait beaucoup intéressé. Bon, » vous savez, quand on a le sens de la valeur des choses, on est peut-être un peu énervé d'être maltraité par une commission. C'était pas grand-chose à côté.
Donc vous êtes le digne héritier de Louis
je
Debreuil.
Je suis l'héritier, est-ce que je suis digne? Non, je ne suis pas digne.
Alors
parce que
héritier.
Personne n'est digne d'un personnage aussi exceptionnel, quoi. C'est évident. Mais enfin, disons,
vous
je,
suivez
fais,
ses traces.
Disons je fais ce que je peux. Quoi.
Eh bien, merci Georges Lechac d'être venu dans notre studio à Canal Académie pour cette émission sur Louis Debreuil, 1892-1987, l'itinéraire d'un grand physicien, prix Nobel, en 1929 et qui était donc à l'Académie française dès 1944. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une autre émission sur la Fondation Louis Debreuil qui existe depuis 1973.
Avec plaisir, je reviendrai.
À plus tard, au revoir.